un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ils appellent ça un adblock IRL. C'est comme un logiciel de filtrage ou de blocage des publicités qu'on ajoute sur son navigateur, sauf que ça se passe IRL, dans la vraie vie, sur les panneaux publicitaires, les abribus ou dans le métro. Plus prosaïquement, ça veut dire défoncer ces panneaux à coups de barre de fer pour exploser la vitre et dégager les pubs qui polluent l'espace public. C'est une technique de sabotage, ou comme diraient certains, une arme de lutte, comme les incendies, les déboulonnages, attaques à l'explosif, blocage de train ou destruction de biens matériels. Si on en croit le très sérieux média en ligne Reporter, le sabotage est en effet une tentation de plus en plus marquée dans les milieux écologistes, dont les voix ne se font pas entendre, qui renoncent ainsi à la bonhomie des manifs sympas où on vient en famille après le déjeuner du dimanche. Face à l'urgence et l'impuissance, ils seraient donc de plus en plus nombreux à prendre cette tangente, la tendance violente. Une façon de s'opposer frontalement au désastre qui vient, préfère expliquer Reporter, qui cite le fameux chercheur suédois Andreas Malm, déclarant « Si quelqu'un a placé une bombe à retardement dans votre maison, vous êtes en droit de la débrancher et de la détruire ». Jusqu'où aller pour sauver la planète? Voici donc deux histoires, deux générations, avec un militant à l'ancienne, un tradi quasiment, et une jeune femme plus énervée par Timothée de Roglaudre.
Je suis Jeannot Reverbel, j'ai une soixantaine d'années. Et je suis actuellement directeur d'un équipement qu'on appelle centre socio-culturel dans un quartier de la ville de Mérignac. J'ai grandi dans le Vercors depuis l'âge de 10 ans où j'étais en pension au collège Sport Nature. Et après j'ai enchaîné sur des formations Sport Nature, écologiste et aussi d'équipement culturel. J'ai été donc moniteur de spéléologie et je pouvais intervenir pour laver les vitres de la pyramide du Louvre, par exemple, avec ces compétences. Je suivais Greenpeace parce que c'est une organisation qui, pour moi, avait une résonance. Et puis, j'ai été repéré pour pouvoir venir grossir les rangs des activistes par ces compétences-là d'accrochage pour pouvoir mettre des banderoles sur des grues et arrêter le déchargement d'un bateau, par exemple. Quand un bateau arrivait à quai avec des OGM ou des bois illégaux, il nous suffisait de monter sur la grue et de nous pendre au crochet de la grue. Et là, ça mettait un peu le merdier dans le port, quoi, parce que du coup, le quai restait bloqué, que les ouvriers ne pouvaient pas travailler, blablabla. Après, il y avait aussi du blocage de portails. Quand il y avait des grands portails, eh bien, pour pouvoir les fermer, mettre des menottes en haut des barres pour pas que le portail s'ouvre, ça c'était aussi remarquable. Et puis une des dernières aussi opérations que j'ai pu faire, c'était de peindre sur les tours de centrales nucléaires. On peint un message, donc ça se voit de loin et il est difficile de l'effacer. Le bureau français était un tout petit bureau, il y avait quelques personnes, parce que jusqu'en 98-99, les opérations et les actions que Greenpeace pouvait mener en France, elles étaient soutenues par les bureaux allemands ou hollandais ou anglais. Alors moi j'ai été recruté chez Greenpeace pour consolider les groupes locaux, faire de la formation aux activistes. On fait des stages d'escalade pour pouvoir accrocher les banderoles au meilleur moment, au meilleur endroit. Et c'est arrivé ça dans les années 2002-2003 où on a commencé à avoir un hangar, où on a pu entreposer du matériel, à pouvoir fabriquer nos banderoles, à pouvoir stocker les combinaisons, des harnais. Et j'ai été coordinateur action, c'est-à-dire de pouvoir monter des scénarios d'action auprès des campagnes. Les campagnes sont les thématiques qui sont repérées par Greenpeace International et déclinées dans tous les pays où Greenpeace est en poste. Et donc il y a des thématiques comme OGM, océan, forêt, agriculture, énergie. Voilà. Et donc le campaigneur ou une campaigneur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la campagne. Et donc de faire campagne, c'est cette recherche, c'est de la science, c'est du journalisme, c'est de l'investigation sur une entreprise qui serait en capacité de faire des pollutions graves à l'environnement. Et donc des rapports ont été fournis accusant l'entreprise et l'entreprise ne veut pas bouger. Et donc à ce moment-là, effectivement, on utilise ce qu'on appelle les actions directes non violentes. Donc c'était souvent effectivement un blocage, disant stop, ça suffit, il faut intervenir et montrer au monde entier qu'on arrête cette pollution. Maintenant, je pense que, enfin, pour moi, les actions les plus compliquées à monter étaient quand on faisait de l'arrêt ou de train ou de bateau. Parce que là, on n'est pas maître du tout des véhicules qui sont extrêmement lourds et qui sont durs à stopper. Donc, pour l'arrêt de train, il faut se mettre dans la peau d'un cheminot et il faut apprendre le langage de la SNCF. Tous les signaux, savoir que les trains roulent à gauche, par exemple, que donc si on veut arrêter un train, c'est pas la peine de se coucher sur la voie de droite. Donc ça prend énormément de temps parce que les bouquins de la SNCF, faut les potasser, il faut que l'on puisse s'entraîner aussi à pouvoir faire ça. Et pour l'arrêt d'un train, il faut savoir que le chauffeur qui est dans sa locomotive a pas d'autre information que les signaux lumineux qu'il y a au bord de la voie. Il y avait encore, les portables étaient pas forcément très utilisés. Les talkie-walkie se font, mais quand ils étaient en proximité. Donc j'ai appris que la Croix-Rouge, que le X signifiait au chauffeur du train qu'il fallait qu'il stoppe tout de suite. Un train lancé, ben il faut à peu près 2 à 3 km pour qu'il puisse s'arrêter. Voilà, je parle pas de TGV, hein, mais d'un train. Donc voilà, il faut penser à tout ça pour pouvoir arrêter ce train et donc avoir des personnes qui puissent rentrer en action, mais qui ne soient pas forcément sur le site de l'action, mais qui soient à 3 km auparavant pour lancer une fusée de détresse ou pour lancer une croix rouge disant attention danger sur la voie ou quoi. Qu'est-ce. Donc que le chauffeur soit en capacité de pouvoir s'arrêter au bon endroit. Et à ce bon endroit, on arrive à déployer une banderole en sachant que quand on se couche sur des voies et que l'on met ses bras sous les rails qui sont donc mousquetonnés, menottés sous les rails, il faut que les activistes qui fassent ça soient sûrs aussi que le train va s'arrêter. Donc il y a une grosse confiance à avoir, et d'où les formations, une grosse confiance à avoir entre les collègues, parce que si un des collègues est défaillant, là ça met en péril beaucoup de choses. Étaient souvent des trains avec des déchets nucléaires, ça s'appelle des castors, et qui transitaient de France à Allemagne souvent. On peut voir la radioactivité autour de ces containers-là, parce que c'était un effet de campagne de prendre les journalistes et de dire bah, voyez, regardez, quand on met l'appareil pour mesurer les radiations, il y en a autour du train. Donc c'est pour montrer qu'à côté d'une gare, comme Caen par exemple, ce train-là passe dans la gare. Et irradié. Donc du coup, c'était ces questions-là qui étaient posées aussi à l'entreprise en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte des risques ?» Quand on fait une action, on avait envie que le message soit porté le plus loin possible et donc d'être bien vu et donc que les photographes, que la presse puisse venir au bord des voies. Donc il faut trouver les endroits où on peut pénétrer assez facilement sur la voie et que le train ne prenne pas trop de vitesse. Donc après une gare, ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que là, c'était c'était la gare de Caen. Et donc on a choisi, quand le train a démarré, donc d'être à moins d'un kilomètre le temps que le train se lance, moins d'un kilomètre de la gare pour pouvoir se poser. Et on savait qu'à cet endroit-là, eh ben, il y avait un espace où les voitures et les personnes pouvaient s'approcher au plus près, ou un pont aussi pour qu'on puisse prendre une photo de tout l'attirail qui était mis en place pour l'action. Donc moi, le jour de l'action, j'étais en position de coordination, de faire en sorte que le campaigneur puisse atteindre la presse, que la presse puisse envoyer ses photos aux agences. Dans les années 2000, quoi, c'est comme le portable ou les photos numériques ou les échanges sur les réseaux. Ça, c'était encore pas très possible. Donc voilà, quand le photographe faisait une photo de l'arrêt du train, il fallait que la pellicule elle puisse voyager dans un développeur de photos pour pouvoir ensuite être transmis aux agences. Donc voilà, il y avait toute cette coordination-là de faire la fluidité de cette action pour pouvoir être remarqué, quoi. Et que le communiqué de presse puisse suivre, que les activistes aient pas froid, que tout le monde puisse manger. Enfin voilà. Durant l'action, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de l'adrénaline, parce qu'il y a quand même des gens qui sont positionnés sur la voie, il y a des gens qui sont positionnés dans des endroits un peu difficiles d'accès. Donc il faut que toutes ces personnes-là soient en sécurité et qu'il n'y ait aucun problème aussi avec le matériel. On n'était pas là pour saboter une voie, il fallait que le train s'arrête de lui-même. Il semblait souvent que les forces de l'ordre étaient soulagées que ce soit nous, parce qu'ils nous savaient non violents, non armés. Du coup, ils savaient que ça allait bien se passer, que ça allait être sûrement difficile de nous déloger, parce qu'on utilisait toujours des subterfuges et des appareils qui soient de plus en plus compliqués à enlever pour qu'on reste le plus longtemps possible. Mais voilà, je pense qu'ils étaient un peu soulagés de voir que c'était Greenpeace. L'efficacité recherchée, c'était de montrer que les déchets nucléaires se trimballaient en France de partout, et donc que chaque personne qui attendait dans une gare ou qui habitait le long d'une voie de chemin de fer pouvait être exposée à des radiations ou à un accident. Aussi de montrer que c'était vulnérable, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait le faire, et donc si n'importe qui peut le faire, ça devient très dangereux parce que n'importe quel groupe armé pourrait se saisir de ce train ou de saisir de ce qu'il y avait dedans. On a fait ça plusieurs fois. Donc c'était dans la répétition que ça pouvait marquer un peu les esprits. Les plus durs, les plus conflictuels, c'était sur le nucléaire, parce que le secret défense intervenait assez rapidement. Mais sinon, sur le reste des actions, on avait des gardes à vue, 48 heures maximum. Sinon, c'était des contrôles d'identité de 4 heures. Et là, on était formés à aussi ces retours-là, quoi. Le terme de sabotage est beaucoup pris actuellement. On n'avait pas ce terme-là en bouche. On avait plutôt un terme de faire attention à pas de dégrader du matériel, parce qu'il pouvait y avoir un impact sur la personne morale et sur la personne physique. Par exemple, si on fauchait un champ d'un paysan, eh ben, il n'avait plus de ressources. Et quand on s'interposait, le cheminot ou le routier qui conduit son train ou son camion ou le capitaine d'un bateau, c'était pas de sa faute. J'ai quitté Greenpeace 2005-2006, épuisé. Entre la consolidation des groupes locaux, la formation des activistes, la recherche de matériel, et puis de faire des investigations, c'était souvent la nuit, pour aller rechercher des indices, pour suivre des camions, j'ai été épuisé. Tout ça m'a servi d'expérience pour pouvoir continuer autrement. Et donc je mets mes compétences à disposition dans des stages, dans des rencontres, pour échanger, pour voir le matériel avec des collectifs, associations, que ce soit les Soulèvements de la Terre, que ce soit Extinction Rebellion, que ce soit d'autres OGM aussi, les faucheurs volontaires qui sont encore très actifs, mais pas que aux militants écologistes. Et c'est pour ça que mon boulot me permet aussi de m'appuyer sur ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Et que chaque personne peut avoir un caillou dans sa chaussure. Et donc là, moi, ma fonction, c'est de pouvoir transmettre et de pouvoir agir et réagir sur la complexité des enjeux actuels, quoi.
J'ai 25 ans, je suis enseignante dans un lycée en Île-de-France et j'adore mon métier. J'ai fait une prépa scientifique très classique, une fac scientifique, et tant que j'étais dans mes études, je connaissais vraiment pas du tout l'écologie. J'avais une sensibilité à l'écologie, par exemple, j'ai commencé à devenir végétarienne assez tôt. J'aimais déjà beaucoup la nature, j'aimais beaucoup les animaux. J'avais déjà une sensibilité pour ça, mais le réchauffement climatique, c'était pas quelque chose que je connaissais. Et donc ça, c'était il y a 5-6 ans. Hein, voilà. Et puis je suis devenue enseignante et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement écologiste. Là, la première chose que j'ai fait, c'est une marche climat. Mais très rapidement, ça m'a semblé extrêmement insuffisant. J'ai été pas mal sur les réseaux sociaux, maintenant beaucoup moins pour tout un tas de raisons. Mais à ce moment-là, je les utilisais beaucoup et que ce soit Facebook ou Instagram, m'ont suggéré des mouvements comme Greenpeace, de les suivre en fait sur les réseaux, comme Extinction Rebellion, comme Attaque, voilà. Et donc c'est comme ça que je les ai découverts. Alors je suis allée chez Extinction Rebellion pour les autres choses, c'est que c'est eux peut-être ceux que je voyais le plus. Et surtout, c'est très très facile de rentrer à Extinction Rebellion en fait. Il suffit d'aller à une réunion de groupe local qui est publique, puis voilà. La première action que j'ai faite, c'est une action de collage d'affiches, tout ce qui est un peu simple. Et après, petit à petit, j'ai appris à faire de l'anti-pub. Donc c'est vraiment juste des collages et d'affiches, mais à l'intérieur, des, par exemple, des abribus ou d'autres choses. Et après, ce que j'ai fait, j'ai continué avec des blocages contre différentes grandes entreprises ou des grandes firmes. Et un passage de niveau d'action, ça a été quand j'ai commencé à me coller la main sur quelque chose, à des vitres, des tables ou des voitures, pour protester, par exemple, contre le modèle des voitures, en fait, contre la surutilisation de la voiture. Et c'est un mode d'action qui a tendance à beaucoup remuer les gens. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord ou pas, mais au moins, ils entendent le message quand ça les marque autant. XR est un mouvement de désobéissance civile non violente. Donc, ces actions considèrent que la dégradation d'objets, donc la casse d'objets, est considérée comme de la violence actuellement à XR. Détruire des biens, est-ce que c'est violent ? Pour beaucoup, ça l'est, parce que c'est à quelqu'un, donc ça peut le choquer, ça peut lui faire du mal de voir ce bien détruit. Et donc moi, à ce moment-là aussi, j'étais persuadée que la violence, c'était pas envisageable. Mais XR n'est pas une association avec une seule ligne. Donc en fait, chacun peut avoir sa propre ligne. Après, la plupart, la majorité des personnes à XR sont contre la violence matérielle. J'estime actuellement que toute action qui détruit du matériel n'est pas violente, puisqu'à mes yeux, la violence, c'est envers les êtres humains. Ce qui m'a fait changer d'avis là-dessus, ça a été toute la partie avec la réforme des retraites et Sainte-Soline. Et aussi, l'un des catalyseurs, bien évidemment, c'est l'inaction du gouvernement. Et donc, c'est là où j'ai commencé à passer dans une partie que certains pourraient considérer plus violente. Je suis passée de la partie XR, donc Extinction Rebellion, où juste je me balade dans les manifs avec un drapeau, à la partie où je suis passée plutôt dans le bloc. Le bloc, la manière dont je le vois, moi, personnellement, c'est un groupe de personnes qui a choisi la couleur noire, parce que c'est une couleur forte, c'est la couleur de l'anarchie, et qui a envie de manifester sa colère et surtout son désaccord très profond avec le gouvernement et de dire « mais on ne peut pas continuer comme ça, réveillez-vous, arrêtez les entreprises de vous engraisser ». Et je veux pas, ce que je faisais en manif contre les pubs, c'est casser la vitre, enlever le verre, arracher l'affiche et ensuite arracher le système électronique, brûler le panneau. En fait, l'idée, c'est de le rendre tellement difficile à être réparé qu'il ne soit pas réparé. On le voit des fois, même pendant la réforme des retraites, il y avait certains endroits qui n'étaient plus réparés parce que de toute façon, c'était cassé tout le temps. Donc, ils n'avaient plus de stock. Donc, à force, en fait, tant mieux, il n'y a plus de panneau de publicité. Moi, je considère encore les flics comme des êtres humains. Et donc, je ne peux pas leur jeter de cailloux. Ce qui a vraiment, après, catalysé tout ça, ça a été d'aller à Sainte-Soline. C'était la deuxième manifestation contre les méga-bassines. Donc les méga-bassines, ce sont des méga-retenues d'eau qui récupèrent l'eau des nappes phréatiques en hiver lorsque c'est autorisé de pomper dans une nappe phréatique pour la stocker dans une réserve artificielle bâchée, d'avoir cette eau disponible pendant l'été et pouvoir continuer à arroser, en général, du maïs. Voilà. Quand on est arrivé, la méga-bassine n'était pas construite, il n'y avait pas de bâche dessus, donc en fait, on n'avait aucune possibilité de dégradation. Donc s'il n'y avait pas eu de flics, il n'y aurait pas eu de dégradation. Mais il y avait des flics, il y en avait même beaucoup. Et ils ont tiré les premiers en voyant beaucoup de monde arriver. Voilà, Je ne sais plus exactement pourquoi, mais donc ils ont commencé à tirer des lacrymos. Donc ça a été un échange de lancers de lacrymos et de LBD. Assez rapidement, les choses se sont envenimées. Je ne me souviens plus du nombre de LBD qui ont été tirés, mais je crois que c'était une toutes les 30 secondes pendant 2 heures. Un truc de fou. Moi, j'étais donc tout devant. Je tenais l'une des banderoles, en fait, qui sont solidifiées sous forme un peu bouclier, qui permettent, en fait, de prendre des LBD ou des lacrymos sans trop souffrir. L'objectif, c'était de forcer la barrière de policiers et d'aller sur la méga-bassine. Il faut le savoir, on a tous pris des risques. Et c'est un sujet qui est tellement important qu'on a décidé de se mettre en danger. Moi, je voyais les LBD péter à mes pieds. J'ai vu des gens à côté de moi partir parce qu'ils s'en étaient pris une sur le visage. Alors oui, j'avais des gants, j'avais des lunettes de piscine et un masque pour pouvoir respirer, hein, j'ai des masques FFP3 et tout. Mais tous ces gens, ils étaient là, rassemblés, en risquant leur intégrité physique pour un trou quand même. Après Sainte-Soline, mes actions ont changé. C'est quand j'ai commencé à faire ce qu'on peut appeler du désarmement. Alors moi, je préfère appeler ça comme ça, même si le mot le plus commun, ça va être dégradation ou sabotage. Donc, c'est beaucoup des groupes informels. Ça peut être des gens d'XR, ça peut être des gens rencontrés en manif. Mais mes actions, maintenant, je veux qu'elles marquent les entreprises qui sont visées. Il y a vraiment urgence, donc la sensibilisation ne suffit plus et il faut vraiment y aller plus fort pour que ce soit entendu plus fort. Par exemple, crever les pneus de SUV. C'est des choses que maintenant voilà, je fais de temps en temps. Parce qu'il y a un moment, si tous les pneus de SUV sont crevés, il y a peut-être un moment où ça fera une réaction un peu plus importante. Par exemple, c'est quand on va aller sur des golfs. Donc la première fois que j'ai fait un golf, donc on a planté des pancartes et planté des plantes. Et quand on l'a refait, et cette fois-ci, on a vraiment creusé dans le green, et on a creusé des marques, on a tagué et tout, vraiment dans l'idée que ce soit pas réutilisable en quelques heures. Il faut vraiment changer entièrement le green. Il y a aussi l'alimentation en eau des greens qui est coupée. Ça permet de marquer durablement le golf par ça. Aussi, sur un chantier, on a dégradé un engin de chantier et coupé quelques câbles importants pour l'empêcher de fonctionner. Mais donc, on a fait attention à ce qu'il n'y a pas de risque pour une personne qui l'utiliserait après. Alors là, accessoirement, c'était un chantier qui est lié aux Jeux Olympiques de 2024. Un chantier en plus qui faisait travailler des travailleurs clandestins ou sans papier. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais les JO posent de graves problèmes en termes d'écologie, mais aussi en termes de social. Et là, donc, on encourait évidemment des risques juridiques assez importants. Donc, c'est à visage couvert, c'est fait de nuit. C'est vrai que le mot de sabotage est souvent utilisé pour ce genre de choses. Mais à mes yeux, le sabotage, c'est un peu comme si... dans mon idée, j'allais profiter du fait d'avoir saboté une machine. Mais non, je profite pas du tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est pas du sabotage, c'est plus du désarmement. Parce que j'empêche ce qu'on estime être une arme de destruction de fonctionner. Ou alors, j'emploie aussi le terme de dégradation, parce que c'est ce qui est dit dans la loi. Si on est pris pour ça, on va parler de dégradation lourde. Un green de golf est une arme de destruction de la biodiversité. Tous les golfs pourraient être des forêts pleines de vie. De la même manière, les SUV, c'est une arme de destruction de la santé humaine, de destruction du vivant par le biais du réchauffement climatique. Mais je pourrais aussi parler des mines de métaux qui fournissent le cuivre, le tungstène, l'aluminium, le cobalt, le nickel, l'argent, l'or, bref, tous ces métaux si importants pour faire fonctionner nos voitures. Un SUV électrique, c'est 80 kilos en moyenne de cuivre. Je ne parle même pas des autres métaux. Donc c'est vraiment des armes de destruction massive du vivant. Je ne pense pas que les entreprises changeront d'elles-mêmes, parce que leur objectif, c'est de survivre dans un monde de requins, qui est la finance, l'économie, tout ça. Même si certaines entreprises ont toutes les meilleures volontés du monde, leur objectif, ça reste la production, la croissance. Par contre, à force de se prendre des coups, ça les fait réfléchir. Et elle peut changer ses investissements. mais c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures politiques. Et ce n'est pas nous qui le disons à la base. Voilà, c'est pointé du doigt par des associations qui sont validées par tout le monde. Donc c'est un risque de venir parler. J'y avais longuement réfléchi. C'est important de montrer aux gens que c'est pas juste pour casser qu'on casse. C'est le rapport du GIEC qui est derrière nos actions. C'est les rapports des ONG, des droits de l'homme qui sont derrière ça. Et les risques pris pour faire ça sont négligeables face aux risques encourus si on laisse le dérèglement climatique continuer, si on laisse la chute de la biodiversité se poursuivre. Même si on risque un casier, c'est pas bien grave. Je n'ai rien contre faire une action de dégradation de plus grande ampleur. Moi, ma limite actuelle, c'est de ne pas faire de mal à des personnes. Par contre, certains mouvements écologistes, en particulier avec Sainte-Soline, qui a été un moment de rupture vraiment, ont accepté plus de dégradation. Il y a des actions qui se passent actuellement à XR qui ne se seraient pas passées l'année dernière. L'action qui s'est passée au Bourget après Sainte-Soline, il y a eu de la dégradation, les rebelles sont rentrés sur le tarmac. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que les banderoles, c'était gentil, mais qu'à un moment, il fallait aller un peu plus loin. Je pense que la non-violence doit s'associer à des mouvements plus violents pour se balancer et avoir une chance de réussir.
C'était La Tentation du Sabotage, un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Ludovic Auger. Merci à Jeannot, à Clémence, à Thomas et au Café Le Dorothy, à Ménilmontant. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Zoé Coupé et notre stagiaire, c'est Hortense Martin. We've chosen.